Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi. Alors aujourd'hui Julia, par quoi va-t-on démarrer ?
Eh bien comme tous les jours, nous allons démarrer en nous posant une question de notre vie quotidienne. Et celle du jour, elle concerne surtout nos enfants. On va se demander ce matin comment gérer la plupart des problèmes à l'école. Disputes avec les copains, voire pas de copains du tout, phobie scolaire, harcèlement... Quand l'école fait souffrir les plus jeunes, on va vous proposer des solutions et des conseils avec Margot Fried-Fioza. Elle est thérapeute et intervenante scolaire.
Et puis Julia, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour dans lequel on vous propose aujourd'hui un éclairage sur le zona. Cette maladie infectieuse due au même virus que la varicelle, c'est une pathologie assez fréquente et en général bénigne. Elle touche dans les deux tiers des cas les plus de 50 ans. Alors comment la reconnaître, la traiter et même la prévenir, car il existe un vaccin aujourd'hui. On fera le point avec le professeur Nicolas Dupin, dermatologue et président de la Société française de dermatologie.
Et ensuite Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, il y aura pour commencer les conseils lecture pour les plus jeunes de Nathalie Le Breton. Elle va nous conseiller aujourd'hui des ouvrages parfaits pour aborder avec les enfants la question des familles recomposées. Ensuite, ce sera au tour de notre expert beauté, le docteur Aurène Marco, alias Docteur Beauty sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il va nous expliquer quelle est la routine beauté idéale, celle que nous devrions toutes et tous réaliser chaque jour pour avoir une mine radieuse et prévenir le vieillissement.
Et enfin, Julia, on finira cette partie tendance avec Philippine Darblay, notre spécialiste lifestyle, art de vivre. Et Philippine, elle en a marre de la galette des rois en janvier, alors elle a déniché pour nous des tendances, des alternatives à la galette. J'espère que ça se mange quand même.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente de vous faciliter la vie dans tous ses aspects. Et ce matin, c'est du côté de la jeunesse que l'on va se tourner. On va se poser cette question, comment gérer les problèmes de nos enfants à l'école ?
Eh oui, Julia, les problèmes scolaires, qu'ils soient petits ou grands, on va essayer de balayer assez large parmi les difficultés que peuvent rencontrer nos petits à l'école. D'ailleurs, je dis petits ou grands, mais tous les problèmes peuvent avoir leur importance. Même de petits chagrins qu'ils nous racontent le soir peuvent cacher des problématiques plus sérieuse parfois. Alors justement, comment dépister par exemple un début de harcèlement scolaire ? On va voir ça avec notre invité dans très peu de temps. Mais tout de suite, c'est Clément Lanoux qui va défricher un peu pour nous ce sujet des problèmes dans les cours d'école. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde.
Vous, l'école, c'est que des bons souvenirs ?
C'est beaucoup de bons souvenirs, effectivement, mais pas tant les cours, plus la côté en fait, qui était vraiment sympa.
La récré, les
copains, les copines, tout ce qu'on peut inventer, évidemment. Mais il y a l'envers du décor, il y a évidemment des problèmes au sens large. Problème numéro un, les disputes à l'école. Alors c'est quoi la source des disputes ? J'ai demandé à des jeunes, à des ados, pourquoi on s'embrouillait en fait à l'école ?
Pour les garçons, les filles avec les garçons, les jalousies, et les bonnes notes aussi, les jalouses.
Moi je pense que c'est la méchanceté, les gens qui sont méchants entre eux et tout, ouais, harcèlement genre.
Pour les jeux, à la dans la cour.
Qui aura le premier vélo, qui aura le ballon pour les garçons ? Il y en a qui voulaient pas jouer ensemble, du coup, il fallait qu'un ballon.
Quand on joue aux billes et qu'on perd, je sais pas. Ça, c'est des problèmes, hein.
Donc nous ça, aussi, justement, oui. On se dispute tout le temps pour les ballons.
Voilà, pour les ballons, pour, justement, pendant la récré. Alors ça, c'est les problèmes du côté des élèves. Il y a les problèmes du côté des profs. Je pensais que c'était aussi les disputes. Et je suis tombé sur une ancienne prof qui m'a dit, alors, mais pas du tout, parce que les disputes, on a été formés. On a une autorité. Il y a un problème en maternelle pour lequel elle n'avait pas été formée.
Moi, je me souviens, la première fois que je suis rentrée en maternelle, je m'y attendais pas, mais c'est des problèmes de « Maîtresse, j'ai fait caca dans ma culotte ?» Je d'accord. Et là, on va s'arranger. C'était pas ça, c'est des petits problèmes des enfants, quoi.
Donc, on n'évoquera pas cela.
On n'évoque pas cela. Non. On va rester justement sur les problèmes. Alors, comment gérer les problèmes quand ça arrive à son enfant, aux enfants des autres, quand on n'est pas forcément instit ou formé pour. C'est quoi la solution ?
Tout le monde doit être impliqué, les parents, les adultes, les professeurs. Toujours montrer de bons exemples aux enfants, c'est un peu comme management karmique. On reçoit ce qu'on sème.
Le karma, en fait. Il faut élever son enfant en disant, voilà, ce qui ne fait pas ce que tu n'aimerais pas qu'on le fasse, c'est un peu ça la solution. Évidemment, c'est plus compliqué parce que quand c'est son enfant, on a toujours l'impression qu'il a raison. Heureusement, il y a encore des gens qui sont quand même très impartiaux.
Bon, moi, je suis de l'ancienne génération. Hein, je ne défends pas mon enfant coûte que coûte.
Je veux savoir déjà s'il a une part de responsabilité, parce que bon, c'est pas l'enfant roi, hein, c'est pas parce que c'est mon enfant qu'il a tous les droits.
Bien, j'aimerais pas être son fils,
les
mais bien,
étaient,
bravo.
Les miens
bravo.
Étaient comme ça aussi, hein, c'était, t'as été puni à l'école, ben t'as puni aussi à la maison.
Ah, donc ça c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils arrivent, et voilà, si en plus ils sont pas en tort. Je vais m'intéresser donc aux collégiens. Je me suis retourné vers les collégiens et je leur ai posé la question, c'est quoi la principale source de problème? Il y a les disputes, mais je me suis rendu compte que le vrai problème, c'est pas les disputes, c'est les profs.
Ah non, au collège, ça arrive tout le temps, hein, des profs qu'on peut pas supporter, qui sont injustes, qui sont pas bien, genre ils nous apprennent mal, quoi.
Ouais, c'était pas de ma faute. Moi, toujours les profs d'histoire, ils pouvaient pas me voir, je sais pas pourquoi. Tous les profs d'histoire, ils me disaient que j'étais chiante.
Moi, j'ai pas eu forcément de problème. On va dire, je suis sérieuse, ça va. Mais par contre, quand un prof, il me saoule. Ah, mais là, je me laisse pas faire.
On embrasse tous les profs, évidemment, qui nous écoutent.
D'histoire,
évidemment. Ouais. Et puis, il y a évidemment le problème, on va terminer vraiment là-dessus, c'est les bagarres à l'école. Est-ce que ça existe toujours déjà? Première question.
Moi, je me fais bagarrer par on pourrait dire presque le plus fort de la classe, mais j'arrive à le battre, je le mets à terre, moi. Parce que mon cousin, c'est le plus fort. Et l'autre qui m'embête, il est juste en dessous. Mon cousin, il est premier de force et l'autre, c'est le deuxième. Et moi, je suis vers les troisième ou quatrième.
Ouais, troisième, quatrième, ça va. Donc, il y a quand même une solution. Je lui ai dit quand même, c'est mal de se battre. Alors, je terminerai là-dessus. Comment arrêter une bagarre? C'est très important.
Ouais. Et ben en fait il faut faire des croche-pattes quand il va près d'attaquer. En fait quand tu vois qu'il va faire un coup de poing, tu te baisses et après tu lui fais un croche-patte.
Toi aussi tu peux te mettre sur lui, le bras dans le cou, et après tu lui dis t'arrêtes et après il va s'arrêter.
Bah pas mal.
Bon, voilà,
j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui écoutent. Hein,
non. Que... on leur apprend à se défendre, mais justement
mais
c'est
moi,
mal
vous
d'attaquer.
Savez, je fais des croche-pattes à Mélanie quand
même.
On
va faire. Bon,
mais j'esquive.
On va faire des tutos à la sortie de l'émission pour voir comment esquiver justement les attaques de Julia.
C'est Mélanie qui a 4 d'accord. Moi je suis une victime. Merci Clément Lanou pour ce reportage très sympa qui nous met déjà bien dans l'ambiance de ce sujet. On va donc continuer sur cette bonne voix avec notre invitée. Bonjour Margot Fried-Filioza.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute et intervenante scolaire. Alors, à partir de quel âge les enfants commencent à avoir des problèmes à l'école, comme le harcèlement par exemple?
Je pense que dès qu'on va à l'école, on peut avoir des problèmes.
Parce donc, dès la maternelle?
Bien sûr, le problème c'est que plus on est petit, moins on a un cerveau développé et donc moins on a des capacités à résoudre les problèmes et surtout les problèmes sociaux et relationnels.
Donc même en maternelle, ils sont si petits, si mignons, il peut y avoir des problèmes très sérieux, quoi. Hein.
Bien sûr, et puis quand on est tout petit, on n'a pas toutes ces capacités qu'ont les adultes de réguler nos émotions. Et du coup, un tout petit truc, c'est vraiment douloureux.
C'est quoi les problèmes les plus fréquents justement qu'on rencontre dans le milieu scolaire, vous qui intervenez régulièrement notamment dans des collèges, dans des lycées? C'est quoi? C'est les disputes avec d'autres camarades? On a entendu pas mal d'ados chez Clément qui eux parlaient des profs, hein, c'est les profs qui sont pénibles. Qu'est-ce que vous entendez le plus dans ces plaintes de problèmes scolaires?
J'entends tout. Et je pense que la question intéressante c'est surtout, ok, quand il y a une dispute, qu'est-ce qu'on fait? Comment on la résout? Qu'elle soit avec un camarade ou avec un professeur? Les deux sont en environnement.
C'est pas le croche-patte la solution, ni l'esquive.
Non, c'est pas le croche-patte.
Enfin, c'est pas le croche-patte, mais si on nous attaque, vous ne conseillez pas ça aux enfants? De se défendre physiquement aussi?
Je pense que la violence physique, c'est à éviter si on peut, parce que ça peut se retourner contre nous, parce que ça ne résout pas le problème non plus. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir une revanche, et puis ça escalade. Il y a des manières plus efficaces, par le dialogue, par la médiation, de résoudre les problèmes.
Et même quand on est tout petit comme ça en maternelle, vous arrivez à leur expliquer qu'il faut parler?
Justement, l'idée, c'est
de
les aider.
Moi, j'avoue, à 4 ans, je dis, on te fait un croche-patte, t'en fais un autre.
Oui, mais l'école, c'est quoi? L'école, c'est un lieu d'éducation. Donc, plutôt que juste essayer d'arrêter les comportements, autant aider les enfants à construire leur cerveau, à construire leurs compétences relationnelles.
Mais c'est vrai, parfois, quand on a du mal à se mettre à leur niveau, à nos enfants, on a oublié, hein, nous, ce qui nous faisait peur ou de la peine quand on était petit. Comment on fait pour mieux les comprendre? Est-ce que vous avez quelques astuces?
Je pense qu'en tant qu'adulte, quand on est face à un enfant qui a un problème, une difficulté, tout de suite, on a peur, on va avoir une réaction. Et la première chose, c'est respirer, mettre de côté notre réaction et écouter l'enfant. Écouter. Plus qu'on va déjà réagir.
C'est vrai qu'on réagit de manière épidermique. Parfois, on a touché à mon enfant et là, c'est la colère. Immédiatement, on est plus en colère que lui presque. Hein. Mais effectivement, se calmer et respirer. Margot Fried-Filioza, vous restez avec nous. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes et tenter de décrypter, de soulager quand c'est possible, les problèmes les plus fréquents de nos enfants à l'école. On évoquera les disputes, les amis. On parlera aussi de harcèlement scolaire. La suite de cet entretien, c'est dans un instant sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Gall, Sacré Charlemagne. Je ne sais pas si déjà, à l'époque de cette chanson, il y avait tant de problèmes à l'école. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'intéresse aux problèmes à l'école de nos enfants, un sujet qu'on développe avec vous, Margot Fruit-Filiosa. Je rappelle que vous êtes thérapeute et intervenante scolaire. Alors, en rapport avec notre sujet, je cite ce livre, Les Petites Histoires Filiosa, problèmes à l'école, chez Nathan. Alors, Margot, parfois, les problèmes de nos enfants, ils sont plus graves que de simples chamailleries. Le harcèlement, par exemple, comment fait-on, selon vous, pour savoir si son enfant souffre peut-être de harcèlement? Est-ce qu'il y a des signes, même si rien n'est parfait, puis chaque cas est individuel, mais qu'est-ce qui peut nous alerter?
Dans une situation comme ça, il faut faire attention à ce que ses notes changent soudainement, à ce que son comportement va changer, à ce qu'il se replie sur soi. Est-ce qu'il ou elle dit « j'ai pas envie d'aller à l'école, je veux plus y retourner ». Il va pas forcément parler directement de ce qui lui arrive, mais un enfant qui se met à faire pipi au lit à nouveau, alors que c'était plus le cas, ou tout changement dans son comportement, sa santé, peut être un élément inquiétant et important à observer.
À partir de quel âge ça commence, le harcèlement, en général?
Parce que vous disiez, dès la maternelle, il peut y avoir des soucis. Donc, est-ce que si petit, déjà, il peut y avoir des choses qui ressemblent à ça?
La définition du harcèlement, c'est quelque chose qui est répété. C'est une agression qui est répétée. Donc oui, bien sûr, si on a un conflit, même chez des tout-petits, qui se répète dans la durée, on pourrait le catégoriser de harcèlement. Après, harcèlement, c'est un mot que personnellement, j'aime pas du tout, parce qu'il fait peur à tout le monde. Personne n'a envie de catégoriser quoi que ce soit comme harcèlement.
Vous l'appelleriez comment, alors?
Conflit, difficulté, problème. Après, ça dépend. Parfois, on a besoin d'utiliser le mot et de le poser. Mais souvent, quand j'interviens dans les classes, on me dit « Non, il n'y a pas de harcèlement ici.
» Ils le connaissent, les mots, eux, les collégiens, les lycéens. Maintenant, en tout cas, ce mot, il leur dit quelque chose.
En fait, ce n'est pas que vous n'aimez pas le mot, c'est que parfois, il est contre-productif. C'est ce que vous nous dites.
C'est ça, il est contre-productif parce qu'on ne va pas oser dire « c'est du harcèlement ». Parce qu'on ne veut pas que ça soit le cas, parce que ça fait peur, parce que ça implique aussi des conséquences légales. Et du coup, toute cette peur nous empêche de venir au cœur du problème et de la situation émotionnelle.
Donc nous, ça nous fait très peur, ce mot harcèlement. Et apparemment, vous le dites, quand vous intervenez dans des collèges ou des lycées, là, eux aussi, ils ont peur. Ça veut dire que c'est tabou, même entre jeunes, de parler de harcèlement. Vous dites, non, on ne parle pas, il n'y a pas de harcèlement ici. Enfin, ça leur fait peur à ce point-là.
Je pense que ça fait très, très peur.
D'être accusé d'être un harceleur, même.
Ça fait peur d'être accusé d'être un harceleur. Et poser un label, poser une définition, ne permet pas forcément de résoudre le problème. Parce que le harcèlement, c'est quoi? C'est un problème de pouvoir entre deux ou plus personnes. En général, c'est une dynamique de groupe.
Oui, c'est plutôt une meute contre un élève.
Oui, tout à fait. Et donc, on a besoin de prendre la situation de manière globale et d'écouter ce que chacun vit, plutôt que de dire « bon, toi, t'es le harceleur, toi, t'es le témoin, toi, t'es la victime ». Oui, ça nous aide à comprendre la dynamique de la situation.
Mais comment on fait, nous, en tant qu'adultes, quand on découvre, par exemple, on peut le découvrir au hasard des réseaux sociaux, qu'on se moque de notre enfant, comment on aborde ça avec lui s'il n'en a jamais parlé avant?
C'est pas simple, surtout s'il n'en a jamais parlé. Et je pense que c'est là où c'est intéressant d'avoir un support, comme par exemple le livre « Les problèmes à l'école », qui est super chouette parce que ça touche le cœur, on s'identifie à ces petites histoires. Et du coup, on peut dire « ah bah, moi aussi, je vis ça ». Et du coup, ça fait une porte d'entrée. Parce que parfois, rentrer trop frontalement, on dit « ah, j'ai vu ça, il se passe ça », ça peut être difficile. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique, mais il y a plein d'outils à notre disposition. Autant les utiliser.
Bon, dans la majorité des cas, c'est vrai que les enfants n'en parlent pas forcément spontanément de ces problèmes-là, mais il y en a qui arrivent en disant « on se moque tout le temps, je ne sais pas, de mes oreilles décollées, ils se moquent de mes fringues ». Enfin, il peut y avoir des choses comme ça qui reviennent comme une ritournelle tous les soirs à la maison. C'est pas évident d'accueillir ça comme quand il y a eu une dispute ou que son enfant s'est fait juste « bon, il y a eu une bagarre ». On l'a dit tout à l'heure, nous, on réagit de manière épidermique, on est nous-mêmes en colère. Comment on réagit là aussi si notre enfant nous fait finalement état de faits de harcèlement à l'école?
De la même façon, avant de réagir, écoutez. Parce que l'enfant, dans ce moment-là où il vient nous confier quelque chose, ce dont il ou elle a le plus besoin, c'est de pouvoir se décharger de toute cette souffrance, de pouvoir se sentir soutenu, écouté, accompagné. Et s'il vient et qu'il nous dit « il se passe ça » et que tout de suite on passe en mode action, il n'a pas la possibilité d'évacuer, de parler de ce qui de vivre ses émotions.
Bien sûr.
Donc accueillir ses émotions, être là pour lui.
Et parce que, aussi, est-ce qu'on peut lui parler de ce qui nous est arrivé, nous, enfants? Parce que les moqueries, finalement, ça a toujours existé. Alors, comment on lui en parle? Est-ce que les moqueries, c'est du harcèlement? Comment on fait la différence, tout ça?
Oui, on peut parler de sa propre expérience et faire ce lien. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'es senti quand ça s'est passé? Qu'est-ce que tu te dis? L'aider à comprendre, donner du sens, pouvoir poser des mots.
Et lui demander est-ce que ça arrive régulièrement.
Oui.
Et aussi, nous, de parents, on a besoin d'évaluer ce qui est de l'ordre de la moquerie et ce qui est de l'ordre
oui,
du harcèlement.
Oui, parce que la moquerie, il y en aura aussi en grandissant. On se dit quelque part, ça les forge aussi un peu dans la vie après plus tard adulte.
Alors
on se moque de nous parfois.
Comment on fait la différence avec son enfant?
Je pense que ça soit une moquerie ou que ça soit du harcèlement, bien sûr, on ne va pas réagir à la même niveau d'intensité. Mais même des moqueries, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de « oui, ça va le former, à être plus dur, tout ça ». Parce que, en fait, ça va surtout le former à être figé à l'intérieur, et à être soumis, et à se cacher.
Donc comment on peut l'aider alors à s'affirmer peut-être davantage, sans lui dire « ça va te forger », mais c'est quand même l'école de la vie aussi, l'école tout court. Et comment on peut les aider si on a un enfant qui est plutôt un peu renfermé, même par nature, hein, avant même ces moqueries, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider?
Déjà, les aider à... Donc, vider les émotions, vivre les émotions et puis trouver des solutions. Comme par exemple, moi j'aime beaucoup l'image d'avoir des plumes de canard sur soi. Les plumes de canard, il y a l'eau qui arrive dessus et qui coule. Ça ne rend pas les canards mouillés, ça coule sur
ça
les
protège.
Plumes.
Ça protège.
Voilà, leur donner des petits outils comme ça qu'ils peuvent utiliser dans les moments où les moqueries arrivent.
C'est comme une armure naturelle. Mmh. Ah, mais malgré tout, bon, les plumes de canard, tout ça, c'est sympa, mais à quel moment on va voir la maîtresse et la directrice de l'école? À quel moment...
Parce que Julia, elle a déjà fait 12 mails.
Moi, les plumes de canard, vas-y.
Il y a deux choses. On ne fait pas que les plumes de canard. C'est certain. On s'occupe de notre enfant, mais on prend aussi la situation en charge. Et je pense qu'un des grands dangers de dire il faut apprendre à son enfant à se défendre, à se protéger, à être fort, tout ça... c'est mettre la responsabilité sur la victime. Et c'est le laisser tout seul, encore une fois. Parce que le harcèlement, c'est un problème social, c'est une dynamique de groupe. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un enfant, mais même un adulte, si tout le monde au travail se ligue contre nous, on ne peut rien faire. On a beau être assertif, parfois, on a juste besoin d'une aide extérieure pour désactiver la
situation.
Donc
ça veut dire que la maîtresse, le directeur de l'école, doit intervenir et aider les parents de l'élève qui est en situation de harcèlement. On est bien d'accord. Il faut bouger les lignes.
Et moi, ce que j'aimerais bien dire à tous les parents, d'ailleurs, c'est contacter les maîtresses, contacter les proviseurs, contacter les directeurs avant qu'il y ait des situations de harcèlement. Il devrait y avoir dans toutes les classes des interventions de prévention. Pour l'amour de Dieu, faisons de la prévention. Enseignons aux enfants... Un art de vivre. Enseignons-leur à gérer leurs émotions, à résoudre les conflits.
Il y a des associations qui interviennent. Heureusement, dans les
Tout
écoles, vous devez les croiser et le faire vous-même, peut-être.
Tout à fait. Moi, maintenant, je fais surtout la formation auprès des établissements parce que c'est vraiment eux qui sont là sur le moment pour gérer. Et donc, oui, on va voir l'établissement, on va voir la maîtresse et on les invite aussi à faire de la prévention.
Margot, si je découvre à l'inverse que mon enfant est un harceleur ou un moqueur chronique, on va dire, qu'est-ce que je peux faire? Je punis? Parce que là aussi, on serait furieux de découvrir finalement que son enfant est le méchant, entre guillemets, dans l'histoire.
On peut être furieux, on peut aussi être curieux. Parce que si mon enfant est harceleur, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Punir, ce qui est certain... c'est que ça va servir à rien parce que ça permet pas de développer l'empathie. Ça permet pas... Et souvent, quand on punit un harceleur, il va juste en vouloir encore plus à la victime. C'est « Ah, à cause de toi, parce que t'as balancé, du coup, maintenant, je me suis pris une punition. » Et du coup, redoubler d'efforts de harcèlement.
Et évidemment, Margot, si ça part dans les tours et que c'est vraiment très difficile à gérer, j'imagine que vous allez conseiller aux parents qui nous écoutent d'amener les enfants voir un psychologue et essayer de réparer tout ça.
Bien sûr, c'est vraiment très important.
Alors heureusement, il existe également des numéros qui sont dédiés. On va rappeler l'existence du 30-20, qui est le numéro national que vous pouvez appeler en cas de harcèlement. Il y a le 30-18 aussi, en cas de cyberharcèlement. On va en parler dans quelques instants avec vous. Margot Fried-Filioza, vous ne bougez pas, on va continuer à parler d'autres problèmes scolaires que peuvent rencontrer nos enfants. Bah, les garçons, par exemple, qui regardent sous les jupes des filles, avec justement les plus petits, et comment aborder la question de l'intimité de chacun. Ce sont des sujets naturels, mais un petit peu sensibles. D'ailleurs, je le rappelle, vous pouvez nous laisser vos questions au 39-21, le répondeur d'Europe 1, ou encore sur nos réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. Alors, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin à certains des problèmes rencontrés par nos enfants à l'école. Et on en parle avec vous, Margot Fried-Fillosa. Je rappelle que vous êtes thérapeute et intervenante scolaire. Alors, parmi les problèmes scolaires, c'est souvent tabou. Ce sont les problèmes qu'on associe à la sexualité, comme par exemple un petit garçon qui va soulever la jupe de ses camarades. Est-ce que, par exemple, on doit punir ce genre de comportement ?
Ce qui est vraiment intéressant dans cette question, c'est qu'on associe à la sexualité. Parce que pour les enfants, ce n'est pas du tout de la sexualité. Ils n'ont pas les mêmes représentations, connotations que nous en tant qu'adultes. Et surtout à des âges comme 5 ans. 5 ans, c'est l'âge où quasiment tous les enfants vont montrer leur pénis, montrer leurs fesses, montrer leurs organes, toucher, curieux. « Ah, mais toi, t'as ça, mais moi, j'ai ça. » C'est une curiosité qui est naturelle, qui est saine, qui ne veut pas pourtant dire qu'on va laisser faire s'il y en a un qui touche alors que l'autre dit non. Par contre, on va accompagner, poser le cadre, poser les limites, enseigner à respecter le consentement de l'autre.
Et là, on vient de prendre l'exemple des petits garçons qui regardent sur la jupe des filles, mais il y a les petites filles aussi qui regardent
oui, qui baissent
dans les toilettes ou qui baissent les pantalons. On est d'accord, ils sont tous à égalité. Cette curiosité, elle est naturelle et pour les deux sexes. Hein.
Bien sûr.
Complètement. Comment on leur apprend justement, comment on fait cette médiation pour le coup chez des tout-petits comme ça, puisque pour eux, c'est naturel, ils n'y pensent même pas à la sexualité, mais néanmoins, comment on aborde ce sujet de l'intimité de chacun, de les parties intimes de l'un, il ne faut pas les toucher, il faut pas les... Enfin voilà, c'est personnel et on s'en approche pas. Comment on explique ça sans finalement mettre le doigt sur des choses qui ne les intéressent même pas encore?
En fait, très simplement, déjà, utiliser les vrais mots, on peut, dès tout petit, ça c'est ton pénis, ça c'est cette partie-là, on peut vraiment mettre les vrais mots et dire ces parties-là, elles sont intimes, elles sont privées, il n'y a que toi qui peux les toucher. Ou moi, quand je suis en train de les laver, tu ne peux pas encore le faire tout seul, mais après je ne les toucherai plus. Si jamais quelqu'un les touche, tu viens m'en parler, c'est pas ok. Ça peut être très très simple, mais on a besoin de leur fournir ces informations sur le consentement, sur les limites.
Donc
sur...
le consentement, on leur explique ça dès 4-5 ans, hein, c'est important.
Bien sûr, mais pas de manière solennelle et terrifiée avec notre terreur intérieure de parents. De manière légère, c'est juste pas là, on est en train de faire la toilette, on est en train de faire ci. Ou on peut aussi parler de « Ah bah voilà, vous avez joué au docteur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et comment tu t'es senti quand il t'a touché là ? Parce que sans que ça ait escaladé à quelque chose de grave, on peut poser des questions. Ah bah oui, c'est vrai que je me suis sentie un peu gênée, ou ça m'a dérangée, j'aurais aimé qu'il ne le fasse pas, ou j'ai pas compris. Mm-hmm. Et du coup, on peut l'aider à mieux comprendre, à mieux analyser, interpréter et communiquer ses limites et ses besoins.
D'ailleurs, c'est aussi l'occasion, parce que là, on parle des relations entre petits camarades à l'école, mais de les alerter vis-à-vis des adultes mal intentionnés. C'est les mêmes mots qu'on utilise vis-à-vis du problème de pédophilie qui nous fait peur à tous.
Tout à fait. Juste dire, personne n'a le droit de toucher tes parties intimes.
Ni des petits, ni des grands.
Ni des petits, ni des grands. Elles sont à toi, c'est ta zone privée.
Mais les enfants, dites-moi, au bout d'un moment, parce que là, on parle les enfants, au début, ils sont très
maternels.
Oui, ils sont très impudiques, etc. Est-ce que les enfants deviennent pudiques et à partir de quel âge ?
Oui, à partir du moment où la prépuberté va commencer à arriver, des changements du corps... La poitrine va commencer à grandir. Il va y avoir beaucoup de changements.
On parle de quel âge, là ? 10 ans ?
Ouais, ça peut être 10, 12 ans. Ça dépend. C'est des moyennes. Il y en a pour qui c'est plus tôt, il y en a pour qui c'est plus tard. Mais avec souvent la puberté, les changements du corps, il y a une certaine pudeur naturelle qui va se mettre en place.
Alors, on a cette question de Mariam sur Twitter. Elle nous dit « C'est grave si mon fils de 9 ans a peu d'amis. Il n'est jamais invité aux anniversaires. Je m'inquiète car je le trouve trop solitaire, contrairement à son grand frère qui est extrêmement sociable. » Ça aussi, hein. C'est vrai que notre enfant ait des amis, c'est vraiment important pour nous les parents, mais pour eux aussi.
Bien sûr. La question, c'est de lui poser déjà la question à lui. Est-ce qu'il en souffre ? Est-ce qu'il a peut-être un très bon copain et ça lui suffit ? On peut avoir des personnalités relationnelles différentes. Il y en a qui ont besoin de 40 copains et d'être très sociales. Il y en a qui ont un ou deux amis qui sont vraiment des amitiés nourrissantes. Après, c'est autre chose d'avoir un enfant qui est complètement isolé.
Un enfant qui a zéro ami, c'est pas normal. On est d'accord, à l'école,
il
est censé en avoir.
Un enfant qui va être en souffrance, c'est sûr et certain. Et ne pas oublier que l'école, c'est pas un lieu de socialisation. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. Mais il n'y a rien qui est mis en place pour aider les enfants à être en relation les uns avec les autres.
Alors, comment vous trouvez ? Ah oui, je n'aurais pas dit ça.
Parce qu'il y a la cour de récré quand même. On se rencontre à la cour de récré, non ?
Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est facilité ?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour faciliter ça ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est naturel, mais effectivement, il y a des enfants pour qui ce n'est pas évident.
En fait, ce n'est pas forcément évident. Puis il y a des petits groupes qui se forment, puis si on n'est pas dans le groupe. Donc inciter l'école à faire des ateliers, des choses comme ça. Et si vraiment l'école organise rien et que notre enfant est seul, on l'inscrit à des activités extrascolaires, au judo, à l'art, aussi à ça, au scout, quelque part, quelque chose où il va y avoir d'autres possibilités de rencontrer des enfants plus comme lui, plus comme elle, avec qui il va pouvoir tisser des liens.
Parce qu'en dehors des activités extrascolaires ou toutes ces activités auxquelles on peut l'inscrire pour justement lui ouvrir l'ouvrir le prisme justement de la sociabilité, est-ce qu'on a des moyens, nous parents, de rendre nos enfants plus sociables? On a tous envie qu'ils soient hyper sociables, mais si ce n'est pas son caractère, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je pense justement ça, le fait d'aller à une activité, le fait d'avoir un ami, d'avoir dans une activité extrascolaire par exemple, ça change profondément pour un enfant parce que du coup on peut passer de « c'est moi qui suis nulle » à « ah, en fait, je suis désirable, je suis aimable, on peut m'aimer ». Et du coup, d'autres personnes peuvent m'aimer. Et ça commence à changer la manière dont on se regarde soi-même.
Et ça changera peut-être même à l'école du coup.
Et ben, bien sûr, ouais. Parce que du coup, quand on sait qu'on a des amis, on sait qu'on a de la valeur, on ne marche pas de la même manière dans la cour de récré. Wow.
C'est très joli.
Je pense à, oui, je pense à tous les petits qui sont seuls dans les cours de récré. Vous étiez bien entourée, vous,
oui,
Mélanie ?
Oui, moi ça va. De ce côté-là, il n'y a pas
seule.
De problème.
Toute seule aussi.
Vous aussi, Margot, donc vous étiez toute seule. Vous faisiez quoi, vous, à la cour de récré, du coup ?
Je pleurais.
Oh, elle attendait le cours de karaté du soir.
Et moi, je pleurais de mon côté. On aurait dû se rencontrer. On aurait
ça
été copines.
Aurait été bien.
Quel dommage. Merci Margot Fridfidioza d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur toutes ces problématiques que peuvent rencontrer nos enfants. Et puis pour les enfants, justement, pour aborder ces sujets-là avec eux, je vous conseille à nouveau ce livre, Les petites histoires Fidioza, problème à l'école, chez Nathan. Merci Margot.
Merci Margot. Merci. On va maintenant changer de thématique. On va faire un focus sur une maladie assez fréquente, le zona. Cela touche dans les deux tiers des cas les plus de 50 ans. Comment le traiter, voire même le prévenir, c'est notre dossier bien-être du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Pour y voir plus clair sur cette maladie, le zona, qui est en général bénigne, on vient de le dire, quoiqu'il peut y avoir quelques exceptions, on va voir ça. On va tout de suite donner la parole à notre invité. Bonjour, professeur Nicolas Dupin.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, président de la Société française de dermatologie. Alors, professeur Dupin, on va parler ce matin du zona. Expliquez-nous d'abord très simplement ce qu'est cette maladie, qui est liée, je crois bien, au virus de la varicelle, c'est ça ?
C'est le même virus, mais qui se réveille un peu plus tard. Quand on est petit, on a la varicelle, une maladie profuse, qui atteint la peau. C'est que la peau, c'est le terrain de jeu des virus. Mm-hmm. Et puis on guérit. Et puis en fait, ce virus, en fait, il rentre en dormance. C'est passionnant avec ces herpesvirus, parce que c'est la famille des virus des herpès. Ils vont retrouver, en fait, le long des racines nerveuses, ils vont aller dans un petit ganglion, qui s'appelle le ganglion rachidien postérieur. Et puis ils vont rentrer dans les cellules, dans les neurones, et là, ils vont se mettre à dormir.
Ça, c'est chez tout le monde.
Chez tout le monde.
Mais après, il ne va pas forcément se réveiller chez tout le monde.
Tout le monde héberge encore du virus et on vit en bonne intelligence avec ce virus qui dort. Et puis, de temps en temps, on est, en vieillissant, on perd des cheveux, on perd des cellules immunitaires et on se défend un petit peu moins bien contre des virus qu'on arrivait à contrôler. Mmh. Et on va faire une résurgence de cette infection qui peut se caractériser par une éruption qui est tout à fait similaire sur le plan de la lésion élémentaire. C'est des vésicules. Mais c'est le long d'une racine nerveuse. Donc c'est très très particulier. C'est une éruption qui est vraiment très reconnaissable parce qu'elle est unilatérale. Elle s'arrête vraiment de façon médiane, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau du torse ou ailleurs.
Et ça concerne plus de femmes ou d'hommes ? Est-ce qu'il y a une différence ? C'est pareil ?
Les virus ne sont pas sexistes.
Par contre, c'est plutôt des personnes âgées. Ça,
C'est une affection qui augmente avec l'âge. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous explique. Avec l'âge, la tour de contrôle immunitaire s'amenuise. Et on contrôle moins bien ce qu'on contrôlait. Et effectivement, on a beaucoup plus de chances d'avoir un zona lorsqu'on est beaucoup plus âgé.
Donc je disais tout à l'heure, deux tiers des cas de zona sont chez des personnes de plus de 50 ans. Mais par contre, j'imagine qu'il y a des facteurs de risque. Si on a des défenses immunitaires plus basses, même à 25 ans, pour une autre raison, pour une maladie par exemple, à cause d'une maladie, là on est plus à risque de zona que quelqu'un d'autre.
Alors d'abord, le rôle du médecin, c'est de rassurer et rassurer vos auditeurs.
Bien sûr.
Donc, quand on a un zona, ce n'est pas forcément parce qu'on est séropositif pour le VIH ou qu'on a une leucémie. On peut avoir un zona même jeune, d'accord ? Parce qu'on peut être fatigué quand on est jeune. On peut être fatigué parce qu'on a une autre maladie. On
Pourquoi vous dites fatigué ? Parce que quand on est fatigué, on a plus de chances de
choper. Probablement. Quand on a une maladie, quand on a une fatigue, qu'elle soit de tout ordre, une autre maladie ou simplement une autre virose peut réactiver éventuellement des zonas.
Est-ce qu'on peut même imaginer être fatigué mentalement ? Ça peut être un terrain...
Bien sûr, la déprime, ça fatigue aussi les lymphocytes. Ouais. Hein.
C'est lié à la varicelle, donc du coup, est-ce qu'on a plein de boutons? Enfin, vous disiez, ça peut sortir sur une moitié du visage, une partie du thorax, mais ça va pas faire comme la varicelle quand on est petit, ouais. Où on a des boutons partout, partout, partout sur tout le corps. Hein. C'est pas ça.
Partout sur tout le corps. Ouais. C'est métamérique. Ça veut dire que c'est le territoire d'une racine nerveuse, parce que le virus qui était hébergé dans le noyau de la cellule se réactive, se multiplie. Il va cheminer le long de la racine nerveuse et va donner une éruption qui est identique à la varicelle, mais de façon localisée. On dit métamérique parce que c'est un métamère, c'est-à-dire un territoire qui est gouverné par une racine nerveuse.
Mais il a quand même des préférences, le zona. Il y a des parties du corps sur lesquelles il se met plus facilement.
Alors, il y a des... Pas vraiment. Il y a des parties du corps où il peut y avoir une plus grande menace. Par exemple, au niveau du visage, on a le risque d'avoir un zona, mais qui peut atteindre un organe qui s'appelle l'œil. Et quand il y a un zona au niveau du visage, du front, on fait très attention parce que c'est une racine nerveuse qui a 4 branches. Et dans les 4 branches, il y en a 2 qui peuvent être concernées par l'œil. Et dans ce cas-là, on peut avoir également une infection de l'œil. Oui. Et on peut avoir même des menaces sur la vision. Donc là, effectivement, ça peut être un peu plus grave. On peut avoir des zonas qui s'accompagnent d'une véritable atteinte radiculaire, c'est-à-dire avec une névralgie ou une radiculalgie. On a des gens, par exemple, qui viennent avec une sciatique qui peut précéder un peu l'apparition d'un zona. Une sciatique, c'est donc une douleur selon une racine nerveuse.
Bon, mal au dos, dans la jambe, jusqu'au pied, parfois.
Le zona, souvent, commence par la douleur avant que d'apparaître sur la peau. Et donc, les gens vous disent « j'ai une douleur ». Par exemple, une douleur thoracique. Alors, ça y est, un homme de 50 ans qui a une douleur thoracique, il se dit, ou une femme maintenant, puisque là aussi nous sommes un peu à égalité, j'ai un infarctus. Et en fait, moi j'ai vu des gens qui viennent avec des douleurs, on ne leur trouve rien, et puis 24 heures ou 48 heures plus tard, bouton, apparaît l'éruption.
Et c'est très fréquent. On dit que c'est une maladie fréquente, mais je ne sais pas, il y a combien de zonas
Personne ne sait combien il y a de zonas, mais c'est fréquent. Ce n'est pas une maladie rare, c'est une maladie...
J'ai lu un Français sur 5 pour en avoir un dans sa vie, ça me semble beaucoup.
20%, oui.
Quand même.
Ça me paraît tout à fait possible, et surtout, ça augmente avec l'âge.
Très bien. Professeur Dupin, on n'en a pas fini avec vous. On va continuer cette mise au point sur le zona. Maladie assez fréquente tout de même. Alors, comment ça se traite, un zona, puisqu'il s'agit du même virus que la varicelle? Est-ce contagieux? Et puis, vous savez, vous, comment on peut l'éviter, prévenir certains zonas? Il y a un vaccin désormais depuis quelques années qui est recommandé pour les plus âgés. On va tout vous expliquer en détail. Alors restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission santé, bien-être tous les matins. Alors ce matin, on se pose et on fait le point sur une maladie assez fréquente, à savoir le zona. Cet éclairage, on le fait avec vous, professeur Nicolas Dupin. Vous êtes dermatologue et président de la Société française de dermatologie. Alors au-delà de l'éruption cutanée dont on a parlé juste avant, quels signes peuvent nous faire peut-être penser à un zona? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Vous avez évoqué les douleurs avant finalement l'éruption. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faudrait penser?
Essentiellement les douleurs, parce que c'est une maladie neurologique en fait. Le virus se multipliant dans la racine nerveuse, il agresse le nerf, il fait une neurolyse, ça fait mal.
Mais c'est les dermatos qui la prennent en charge ou les neurologues? Alors ça pourrait être plusieurs, ou les généralistes,
bon,
enfin.
On s'entend bien, donc il n'y a pas de problème. Va. Mais celui qui s'occupe de la peau, c'est celui qui va reconnaître, c'est le dermatologue. De temps en temps, les douleurs, alors elles peuvent précéder le zona. Elles peuvent être au moment du zona, c'est des douleurs aiguës, et puis elles peuvent survenir après. Et on verra tout à l'heure que les choses les plus importantes, c'est peut-être les douleurs post-zostériennes, c'est-à-dire après le zona.
Donc vous dites que c'est une maladie dermatologique, infectieuse, et à la fois neurologique. Oui. C'est complexe quand même comme mécanisme. Hein.
Oui, c'est simplement qu'elle a un tropisme pour la peau, ce virus a un tropisme pour la peau, pour s'exprimer sur la peau, mais vient dormir dans les neurones.
Mais moi, je n'ai pas compris, on a mal où quand on a un zona?
On va avoir mal le long de la racine nerveuse qui est concernée.
D'accord.
C'est-à-dire que généralement, si on a un zona qui concerne une racine nerveuse qui vient au niveau du thorax, ben on va avoir une douleur.
D'accord.
Qui est une douleur en hémiceinture. C'est-à-dire qu'il ne touche qu'une partie, parce qu'il y a 2 ganglions de chaque côté, à droite et à gauche, et que le zona va se réactiver, le virus va se réactiver dans une seule des racines nerveuses.
Comme dans les côtes un peu, c'est
dans
ça
dans les côtes, ouais, ça donne ça. Des douleurs, c'est pour ça que je vous dis, ça peut mimer quelquefois même une douleur thoracique, un infarctus du myocarde ou autre. Mais ces douleurs vont durer quelquefois 24-48 heures avant qu'apparaisse la lésion. Donc en fait, c'est difficile de faire le diagnostic à ce stade.
Et alors la lésion cutanée, on en a parlé, ça ressemble donc à quelque part aux vésicules de la varicelle, ça peut être sur le visage, sur le thorax, pas sur tout le corps en même temps en général, mais est-ce qu'elle gratte? Parce que la varicelle, on s'en rappelle, c'est pas grave, mais alors c'est pas très agréable.
Ça gratte moins que la varicelle.
Ouais.
Hein, de façon, c'est surtout douloureux. Mmh. Il y a des plaques rouges sur lesquelles viennent naître des petites vésicules. Ces vésicules grossissent et elles sont ombiliques. C'est-à-dire qu'elles, c'est comme le petit volcan, elles deviennent ombiliquées. Mais surtout, en fait, elles se regroupent aussi en bouquets, un peu comme pour l'herpès. Mais elles sont plus douloureuses, véritablement, que prurigineuses.
D'accord. Alors, généralement, c'est bénin, mais ça n'empêche pas que ce soit handicapant. Je crois que parfois, il peut y avoir des complications. Lesquelles ?
Alors, les complications principales. Alors, au stade aigu, c'est la douleur, bien sûr, mais c'est aussi, si on se gratte, on peut avoir des surinfections, on peut avoir des petites bactéries qui se retrouvaient juste à côté, puis le staphylocoque vient faire une surinfection du zona. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Quand il est localisé, bien sûr, au niveau de l'œil, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des complications ophtalmiques, il peut y avoir des complications neurologiques. Un zona, par exemple, au niveau d'une racine nerveuse qui vient innerver le petit bassin, on peut avoir des globes vésicaux, c'est-à-dire se mettre en rétention d'urine. On peut avoir des troubles vésicaux, on peut avoir éventuellement même des maladies neurologiques, des affections neurologiques qui se déclenchent de façon très aiguë. Et c'est donc très important de reconnaître la cause parce que ça signifie qu'il faut le traiter. Bien entendu.
On ne peut pas mourir dans zona, par contre. On est d'accord.
Non, a priori, on ne peut pas mourir dans zona. Bon.
Une fois qu'on a eu un premier zona, est-ce que c'est une maladie chronique et qu'on risque d'en avoir d'autres dans l'avenir ?
Alors, maladie, j'aime pas trop le terme. C'est vrai que ce n'est pas une maladie chronique, comme vous venez de le dire. En fait, ce n'est pas une maladie chronique. Par contre, on peut en faire plusieurs, malheureusement, parce qu'on n'est pas immunisé. Ces virus ne provoquent pas d'immunisation définitive. Donc, on a fait la varicelle. Le virus s'est mis à dormir pendant 20, 30, 40, 50 ans. Il s'est réactivé une fois, il peut très bien se réactiver une deuxième fois.
Donc si on a fait la varicelle, on n'est pas prémuni du zona.
Ah, et non. Si on n'a jamais eu la varicelle, par contre, on n'aura jamais de zona ?
Alors, on a presque tous eu la varicelle. Ouais.
Moi, j'ai vacciné mon fils parce qu'il y a un vaccin contre la varicelle.
Il y a un vaccin, mais qui n'est pas recommandé de façon comme d'autres vaccins pour le ROR, les oreillons ou autres. Ça ne fait pas partie du calendrier vaccinal, en tout cas en France.
Est-ce que c'est contagieux, le zona ? Est-ce que ça se transmet ?
Alors, classiquement, il faut toucher les lésions pour que ça soit contagieux. La varicelle, les gens sont contagieux avant d'avoir l'éruption. Donc c'est comme pour le Covid, vous n'avez pas de symptômes et vous pouvez contaminer les gens. Donc c'est des maladies qui sont très contagieuses. Le zona, il n'est contagieux, on n'élimine pas le virus par voie salivaire ou par la transmission orale. Donc c'est normal, il faut toucher les lésions pour que ça soit...
Donc si Julia a un zona sur la joue et que je vais le caresser, là je peux l'attraper éventuellement.
Voilà, mais il faut une petite brèche au niveau de vos mains pour pouvoir que le virus rentre. Mais par contre, ce qu'on conseille, c'est quand même que les gens qui travaillent, qui sont à proximité de gens qui sont fragilisés ou vulnérables, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées, couvrir votre zona permettra quand même d'éviter d'avoir contact avec ces vésicules.
On a une question d'Aurélie qui habite Marseillan au 39-21. Elle nous demande si on peut avoir un zona suite à un choc émotionnel parce que sa mère de 76 ans en a déclaré un le lendemain du décès de son mari.
Mais tout à fait. Moi, je pense que de toute façon, la peau est un organe qui parle et qui réfléchit et qui est en liaison directe avec le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est évident. Donc, un choc affectif peut très, très probablement perturber un équilibre qui, jusque-là, était parfaitement harmonieux et déséquilibrer cette harmonie. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement des réactivations de ce type de maladie. Oui, je dis oui.
Je pense que vous allez répondre peut-être oui encore à Laurie dans les Ardennes sur Facebook. Elle nous demande, est-ce qu'une infection Covid peut être un facteur de risque de développer un zona ?
Alors, c'est comme les autres infections. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le zona, c'est une baisse de l'immunité. Donc on peut imaginer que votre armée immunitaire vient lutter contre le Covid et elle oublie un peu les cellules qui permettaient de contrôler le virus de la varicelle qui était dans le ganglion. Oui, effectivement, on a vu au cours du Covid et même au cours du vaccin, on peut voir des réactivations de zona.
Et est-ce que, comme pour la varicelle, il suffit d'attendre que ça passe ? Est-ce que la maladie peut guérir spontanément ?
Bien sûr, elle va guérir. Dans la plupart des temps, elle guérit spontanément. Il n'y a pas d'indication à mettre en route un traitement. Ah oui. Éventuellement, on traite la douleur. Éventuellement, mais il n'y a pas forcément à donner un antiviral. L'antiviral n'est indiqué que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plutôt les gens de plus de 50 ans qui vont éventuellement faire les complications. Et c'est chez ces personnes de plus de 50 ans, parce qu'il y a une augmentation du risque de faire des douleurs après le zona, que le traitement précoce au moment du zona, dans les 48 heures qui suivent, voire 72 heures qui suivent l'apparition des premiers signes cliniques de zona, il est indiqué de traiter à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ça diminue le risque de développer les complications post-zostériennes, c'est-à-dire les douleurs post-zostériennes, qui sont la principale complication.
Et le traitement, ça sera donc, vous dites, un antiviral, c'est quoi ? Ce sont des comprimés ?
C'est des comprimés, c'est des comprimés. On prend des comprimés pendant 7 jours. Mm-hmm. Alors, quand il y a une atteinte ophtalmique, il n'y a pas de doute, on doit traiter, quel que soit l'âge. Mm-hmm. D'accord ? Quand on a un patient immunodéprimé, quel que soit l'âge, on va traiter.
L'ophtalmique, c'est celui que vous craignez le plus, j'ai l'impression.
Bah, l'ophtalmique, c'est celui qui peut effectivement donner une complication au niveau de l'œil. Et si à cause d'une réactivation de la varicelle, c'est-à-dire du zona, vous allez perdre votre œil, c'est un peu dommage quand même.
Et ça dure combien de temps en moyenne un zona avec les symptômes ?
7-10 jours.
D'accord. Et ça peut recommencer par contre.
Ça peut recommencer, mais quelquefois des années plus tard. Ouais. On peut refaire un zona, d'ailleurs, dans un autre territoire.
Alors justement, on va parler de la prévention du zona, parce qu'aujourd'hui, il y a un vaccin, depuis quelques années, qui est recommandé. Pour qui, d'ailleurs, il est recommandé exactement ? Là, ce n'est pas un vaccin obligatoire, d'accord.
Ce n'est pas un vaccin obligatoire, il est recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, jusqu'à 70 ans, 75 ans. Généralement, c'est malheureusement un virus. Alors, c'est un virus vivant atténué, donc il est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées, parce qu'un virus vivant, bah, il peut se réactiver chez un immunodéprimé. Et puis, c'est pas un super vaccin. Ah, ça marche bien de façon précoce, mais son efficacité diminue avec le temps.
Ah oui. Donc il faut, vous ne le conseillez pas tellement à vos patients, vous ?
Bah, les patients à risque, éventuellement, effectivement, on peut leur proposer, mais je ne le fais pas systématiquement à tous les patients. On attend un vaccin, je dirais, qui serait plus pertinent et plus efficace s'il permettait d'avoir une immunité durable. Mais on voit bien qu'à la fois sur la prévention de la réactivation du virus ou sur la prévention du zona, bah, son effet s'amenuise avec le temps. Au bout de plusieurs années, quelques années, bah, on voit que finalement, les gens ne sont pas tellement immunisés.
Et comment on traite les lésions ? Enfin, je veux dire, il faut bien les nettoyer. C'est quoi ?
Alors, c'est comme tout.
L'hygiène.
Le moins possible de trucs.
Ah oui.
Moi, je dis de l'eau. Nettoyer avec de l'eau et du savon de Marseille, s'il vous plaît.
Ça va sécher le savon de Marseille un petit peu.
Vous mettez du gras. Alors, du gras, quand il y a des croûtes, on met du gras parce que le gras fait tomber les croûtes et que ça empêche de se gratter. Vous disiez
pour pas avoir des cicatrices comme pour les petits enfants.
Avoir des c'est rare que ça laisse des cicatrices. C'est vraiment quand il y a eu des lésions qui sont profondes que ça laisse des cicatrices. Le plus souvent, le zona, n'oublions pas, la vésicule, elle est épidermique, c'est-à-dire dans la partie la plus superficielle de la peau.
Très bien, mais écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup, professeur Dupin,
merci
pour cet
vous.
Éclairage sur le zona.
Merci
une
beaucoup.
Mise au point très intéressante. Et donc, on retiendra qu'il y a quand même un vaccin pour les plus de 65 ans qui permet de prévenir, pas parfaitement cette maladie, mais c'est possible. Et c'est une maladie donc, qui touche dans les deux tiers des cas les personnes de plus de 50 ans. Merci, professeur.
Oui, merci encore, professeur. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va d'abord écouter les conseils lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Elle a sélectionné pour nous les livres à mettre entre les mains des enfants pour aborder avec eux le sujet des familles recomposé. Ensuite, il y a l'ordonnance beauté du docteur Aurène Marco alias Dr Beauty qui va nous révéler les secrets de la routine beauté parfaite. Promis, vous n'aurez plus aucun problème de peau. Et enfin, on va terminer avec Philippine Darblay. Elle n'aime pas la galette des rois. Enfin, si un peu quand même, elle a déniché pour nous des alternatives. Vous l'entendrez. Bon, je crois qu'il y en aura pour tous les goûts sur Europe 1.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Mélanie Gomez tous les jours. Alors tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance et on va la commencer aujourd'hui avec vous, Nathalie Le Breton. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors
bonjour
aujourd'hui, vous nous proposez une sélection de livres jeunesse sur un sujet un peu touchy, parfois pour les enfants.
De quoi on va parler alors Nathalie, un petit pitch?
On va parler de recomposition familiale, mais ça s'améliore, mais c'est de plus en plus commun, c'est vrai, mais ça reste vraiment impactant pour les enfants.
Et les bouquins peuvent bien nous aider, faire passer la pilule, on va dire. Ensuite, il y aura, pour notre plus grand plaisir, les conseils beauté de notre expert en chef, le docteur Aurène Marco, qui est en ligne avec nous. Bonjour Aurène.
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Très bien, quel est votre sujet ce midi ?
Eh bien, ce midi, on va parler de routine beauté, parce qu'on en entend beaucoup. On parle beaucoup de routine beauté. J'aimerais un peu clarifier les choses.
Oh oui, moi, je veux la même peau que vous, docteur. Et enfin,
c'est vrai.
Il est trop beau, le docteur Aurène Marco. Enfin, on va boucler ce tour de table avec Philippine Darblay. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il me semble que vous en avez marre de la traditionnelle galette des rois à la frangipane ou la couronne. Du coup, vous avez trouvé d'autres choses.
Oui, alors attention, j'en ai pas marre, mais il y a des choses très, très, très novatrices et j'avais envie de vous en parler.
Eh ben, très bien, et puis vous êtes venus les bras chargés. Merci Philippine. Ce sera à vous dans très peu de temps, ne bougez pas, mais tout de suite on va se faire, belle et beau, non ? Bien fait pour vous.
Ça. Europe 1, bien fait pour vous.
Les tendances.
Alors, on se fera bel et beau dans quelques instants, mais on a un petit peu inversé l'ordre hein, des chroniques.
Aurèle
est en ligne avec nous, je ne vous ai pas prévenu, je suis désolée.
Remarquez Mélanie, oui. Je prends le bel avec plaisir.
Alors, on va se faire bel en lecture en tout cas. On va parler bouquins et je me tourne donc vers notre spécialiste Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, petit clin d'œil aux familles qui recomposent après un divorce ou une séparation, un choix de vie de plus en plus commun, mais qui reste rock'n'roll, surtout avec tous les enfants, hein, les siens, ceux du conjoint et ceux que l'on a fait ou qu'on va faire avec le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Les livres font partie de l'arsenal pour nous aider à garder le sourire.
Oui, et on a bien évolué malgré tout, hein, depuis Blanche-Neige et sa terrible et maléfique marâtre. Et je vous passe les ogres, beaux papas, malfaisants et prédateurs d'enfants en général.
Moi, j'ai lu Cendrillon à ma fille hier, elle était terrorisée. Elle me dit, mais pourquoi elles sont aussi méchantes ?
Ouais. Bah, alors, oui. Bon, la méchanceté, hein, y en a souvent, parfois, entre les enfants, qu'on soit de la même fratrie ou pas de la même fratrie, on va y revenir. Mais en tout cas, les enfants aujourd'hui, ils s'expriment et on les écoute sur le sujet. Si je viens sur le premier livre, justement, quand je vous disais on ne dit plus marâtre ou on ne dit plus l'ogre, je vais vous présenter un livre très optimiste qui s'appelle « Les papapas ». Voilà un piti qui a décidé de nous expliquer ce que c'était que les papapas, parce que décidément, c'est grand, ils ne comprennent rien et les autres enfants non plus. Alors, il s'en va décrire les papapas, c'est-à-dire les beaux-pères, qui en général sont des mecs qui ont plein de listes et qui mettent plein de post-it, par exemple, aller les chercher à l'école, ou qui font la liste des lieux de vacances à faire avec tous ces nombreux enfants. Ils sont plutôt sympas, assez blagueurs. Ils savent imiter même les crapauds baveux. Enfin, il y a des trucs plutôt sympas. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ils sont souvent en combat contre le papa. Papa contre super papa. Exactement. Mais en même temps, alors j'adore, il y a un tout petit passage sur les pamamas. Hein, parce que ça, on n'en parle pas des pamamas, qui, elles, rivalisent plutôt sur les grands câlins à donner. Et donc, ce petit-là, il évolue, parce qu'il y a un moment donné, figurez-vous que les papapas, ils peuvent devenir aussi papa. Sauf que dire papa, papapa, il y a un moment donné, c'est trop compliqué. Et donc, l'enfant, il dit, il y a des fois, il dit les papapas, pour certains pitis, et puis pour d'autres pitis, il s'appelle papa. Mais ce qui est sûr, et c'est ce que dit ce livre, et c'est la modernité de ce livre, c'est que le papapa, quand il a rencontré maman, il savait qu'il y avait des pitis et qu'il serait un papapa. Et ça, c'était caché nulle part.
Bah, bien sûr, le contrat était clair. Mais souvent, quand on pense que tout s'apaise et que tout roule, vous l'avez dit, c'est l'arrivée d'un nouvel enfant qui vient à nouveau bousculer ce fragile équilibre, Nathalie.
Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille avec la recomposition familiale. Certaines d'entre vous ici autour de la table le savent bien. La grande aventure du petit tout. Excellent bouquin d'Agnès de l'Estrade qui est sorti chez Sarbacane avec Tiziana Romanin. Alors voilà un petit tout qui est né dans la famille tout. Et ça, c'est le bonheur d'avoir un papa grand tout, une maman grand tout. On forme un tout, on est un cocon, c'est bien. Jusqu'au moment où il y a du divorce.
Aïe, aïe, aïe.
Et d'un seul coup, cet enfant, il se sent morcelé. Il se sent partagé alors qu'il était un grand tout jusque-là. Donc c'est un peu compliqué à vivre. Et c'est d'autant plus compliqué qu'arrive dans cette famille un autre homme. Et évidemment, face à Monsieur Tout, qui c'est cet homme ? Eh bien, c'est Monsieur Rien. Pour l'enfant, c'est Monsieur Rien. Et la problématique, c'est quand d'un seul coup, il y a un enfant qui arrive de la part de ce Monsieur Rien avec Maman Tout, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ça va donner un petit rien, voire un moins que rien.
Oh là là !
Et donc, c'est assez intéressant dans ce livre parce que les rapports sont extrêmement difficiles entre les enfants. Il a vraiment du mal à s'y retrouver. Et puis, progressivement, il va grandir. Il ne veut pas lui parler, il ne veut pas jouer avec lui. Il fait comme s'il n'existait pas. Et tout doucement, il va se construire, retrouver le tout qu'il était dans cette famille recomposée. Et d'un seul coup, ce petit de rien, ce petit moins que rien, il va devenir un petit frère. Mmh. Voilà, c'est assez joli, mais ça
beaucoup
dit
d'émotions
bien
dans cet album,
ouais,
effectivement.
Tout à fait.
Alors Nathalie, on parle rarement de la situation de ces enfants qui arrivent comme pour cimenter la recomposition familiale. Pour eux non plus, hein, même s'ils n'ont pas subi le divorce de leurs parents, c'est pas simple d'avoir des frères et sœurs intermittents.
Eh ben oui, on l'a entendu avec ce petit tout qui est quand même très énervé avec ce petit rien. Mais j'ai voulu terminer cette chronique livre pour enfants avec quelque chose d'extrêmement positif, et ça s'appelle « Une vague de joie pour Eloi, c'est sorti chez Père Castor, un livre de Koschka. Alors c'est plutôt bien fait parce qu'on part du point de vue de l'enfant Simon, comme vous le dites si bien, parce que c'est ça. Et il attend sa grande demi-sœur, mais lui, il l'appelle évidemment sa grande sœur. Et il y a une phase d'excitation, au point qu'il ne peut pas dormir. Et il met des corps partout, et il prépare la chambre, il a placé le doudou de la grande sœur. C'est assez fort, et on sent alors les parents évidemment qui essayent de le calmer, et évidemment tout le bonheur qui éclate à la fin du livre quand sa sœur Anouk arrive enfin. Mais à la fois, c'est très positif et c'est très important parce que ça va créer des souvenirs. Parce que ces enfants-là aussi, ils ont une sensibilité. Parce qu'ils sont enfants uniques parfois et ils sont dans une fratrie parfois à d'autres moments. Et les moments de solitude, loin de leurs frères et sœurs, ils ont l'impression de ne pas faire partie du clan. D'où la force de ce livre qui est présenté de façon extrêmement positive. Et c'est bien le seul, et très joyeuse, et qui en même temps nous rappelle que c'est important de penser aussi à ces enfants-là.
C'est vrai que j'avais jamais vu de bouquin sur ces enfants-là, enfants du ciment du nouveau couple.
Oui,
on
part du principe que ça roule parce qu'il a la chance d'avoir son papa sa maman. Ouais. Mais ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, lui, on lui demande de s'adapter à de multiples familles. Et c'est ce que dit bien ce livre. Et imaginez quand la grande sœur ou le grand frère quitte le foyer. Un vide intersidéral.
C'est un abandon, presque.
Mais exactement, et ça se revit tous les 15 jours ou chaque semaine. Donc ces livres sont de très bons accompagnants dans la durée, parce que vous savez que la vie, elle est faite d'aléas, de hauts et de bas. Il y a des fois, on a l'impression que ça roule, il y a plein de rires dans la famille recomposée, et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, il se passe un petit truc de rien du tout, et tout, de nouveau, c'est comme s'il fallait tout reconstruire. Épuisant pour les parents, ça demande énormément d'abnégation et c'est pour ça que ces livres, il faut les avoir à portée de main, y revenir très régulièrement parce que l'enfant va passer des phases tout à fait différentes.
Vous nous rappelez le titre du dernier, effectivement, qui est assez étonnant, je trouve.
Bah
du coup,
voilà, une vague de joie pour Eloi. Et quand vous regardez à l'intérieur du livre, vous voyez quand il y a sa sœur qui arrive et il y a son cœur qui bat, il y a trois petits cœurs qui sont dessinés et vous sentez le battement, la fébrilité cet enfant. Il ne faut pas les oublier.
Alors justement, on va mettre tous vos livres sur les réseaux sociaux de Bienfait pour vous, toute votre sélection. Merci beaucoup Nathalie pour ces conseils de lecture qui seront plus qu'utiles, je pense notamment aux parents qui traversent justement des changements familiaux actuellement ou une séparation. Les livres seront souvent d'une aide précieuse. On va revenir dans quelques instants avec d'autres tendances. D'abord, les conseils précieux et très pratiques du docteur Oren Marco pour prendre soin de nous, hommes ou femmes. Notre peau a besoin d'attention et d'une routine beauté parfaite. Il nous donnera la sienne. Et puis, Philippine Darblay a décidé aujourd'hui d'aller à contre-courant. Il y a des galettes des rois partout. Et elle n'en peut plus. Elle va nous proposer les alternatives qu'elle a repérées ces derniers jours. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec notre bande de chroniqueurs toujours autour de la table. Et maintenant, on va parler beauté et même routine beauté avec vous, docteur Oren Marco. Alors vous êtes en ligne avec nous pour une chronique qui n'est pas destinée aux femmes. Attention, on est d'accord, ces messieurs aussi devraient prendre soin de tous les jours. Vous, par exemple, alors juste petite question perso, vous faites quoi tous les jours, vous, parce que vous êtes parfait, on le voit bien quand on vous regarde dans les vidéos d'Europe 1.fr.
En fait, je vais en parler, mais globalement, je mets pas grand chose. Et en fait, je voudrais justement qu'on démystifie un petit peu cette routine beauté. J'ai l'impression que on en entend parler à tout va. Il y a dans la presse féminine des actrices, des comédiennes, des starlettes qui nous parlent de leur routine beauté. Sur Instagram, les influenceuses tous les jours nous proposent une multitude de produits appliqués sur le visage. Et ça existe depuis longtemps, aussi bien. C'est pas un phénomène récent. Mais chacun donne son avis sur une routine beauté. Mais il y a des grandes règles, à respecter pour avoir une jolie peau.
Alors c'est quoi les grandes règles, docteur?
Alors justement, ce week-end, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, sur mon compte Instagram, en demandant quelles étaient, parce que j'ai plus de 50 000 femmes qui me suivent, donc je me suis dit que c'était un bon panel représentatif de ce qui se faisait. Et j'ai reçu à peu près 2000 réponses à mon petit sondage. Et en fait, on a autant de routine beauté que de gens qui ont répondu.
Ah, mais ça va pas être possible, ça. On va peut-être pas faire les 2000.
Tout le monde a tort. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Globalement, en fait, il y a des grandes règles à respecter. Et c'est vrai que depuis les réseaux sociaux, les filtres et tout le monde cherche à avoir une jolie peau.
Mais alors, donc, en gros, il faut faire quoi? Faut faire quoi, docteur ?
En gros, faut faire quoi ? Faut évidemment diminuer la cigarette qui abîme la microcirculation et vous donne le teint gris et pas rose.
Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait, docteur.
Ça, c'est fait. Alimentation pas trop riche en graisse qui engendre un excès de sébum et peut vous fabriquer de l'acné, d'accord ? Une peau bien oxygénée, donc quand on habite dans les grandes métropoles, la pollution, c'est pas terrible. Il faut pas hésiter à nettoyer sa peau très souvent. Donc, nettoyer sa peau très souvent, c'est une routine quotidienne, mais également passer par des cases de nettoyage de peau de temps en temps chez des kératothérapeutes.
Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut vous revenir sur comment on démaquille bien
Alors, déjà, démaquiller bien, la grande tendance que ce qui est ressorti, c'est que tout le monde utilisait de l'eau micellaire. L'eau micellaire, pour moi, c'est beaucoup trop astringent et ça agresse la peau.
Bien sûr.
Donc, je conseille à tout le monde de se démaquiller avec de l'huile démaquillante qui est beaucoup plus hydratante et, si possible, une huile démaquillante bio. Ah.
On a notre réalisateur Nicolas Baudin, qui comprend rien en beauté, qui nous dit ça veut dire quoi astringent pour la peau ?
Astringent, ça veut dire que ça agresse la peau, ça enlève le sébum, c'est plus pour les peaux mixtes, et du coup la peau réagit, elle se sent agressée, donc va sécréter encore plus de sébum. Donc vous êtes
c'est
dans
pour
un
ça que vous êtes un peu
vicieux.
Rougeau, Nicolas Baudin, il faut arrêter d'astringer la peau là, comme ça.
Il faut arrêter d'astringer la peau. Donc globalement, démaquillage avec une huile démaquillante bio si possible. Mm-hmm. Ensuite, pour nettoyer la peau, il faut pas l'agresser, donc moi je préconise de vous brumiser, vous mettez un petit brumisateur d'eau thermale. Peu importe la marque, mais en tout cas une eau thermale.
Pas d'eau
du
robinet.
Pulvérisez sur votre visage. Pas d'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, pareil, elle a un pH qui agresse aussi la peau. Mm-hmm. En tout cas, l'eau thermale vous permet de nettoyer très correctement la peau et vous n'êtes pas obligé de la frotter. Vous pouvez tout simplement passer un petit... Alors, c'est pas très écolo, mais vous pouvez, avec un mouchoir en papier, essuyer ce qui reste en surplus. Et ensuite, vous appliquez, si on est le soir ou le matin... Le soir, on privilégie une crème riche, hydratante, mais peu importe la marque et peu importe que ce soit anti-rides ou pas.
Ah bon ? Juste de l'hydratation, d'accord.
Juste de l'hydratation.
Mais moi, docteur, j'avais entendu dire qu'il fallait laisser respirer la peau le soir. Vous n'êtes pas de cette équipe-là, vous ?
Le soir, en fait, quand vous hydratez bien la peau, le matin, vous vous réveillez avec une peau déjà plus hydratée. Vous pouvez justement laisser respirer le matin en mettant un sérum très léger.
Ah.
Et surtout, ce qui est primordial pour votre peau, c'est de mettre une protection solaire le matin.
Mm-hmm.
Peu importe votre couleur de peau, peu importe le temps qu'il fait, il faut constamment vous protéger. Et encore, si on veut prévenir aussi les taches pigmentaires, qui sont les taches de soleil, on peut rajouter un petit fond de teint avec sa crème hydratante, parce que le fond de teint réfléchit la lumière bleue des UV et permet d'éliminer les taches pigmentaires.
Aurèle, je vois Nathalie Le Breton qui lit beaucoup de livres, mais qui apparemment chouchoute sa peau, parce que tout ce que vous dites, elle hoche la tête, elle dit « Oh bah oui, c'est ça, vous mettez bien, vous faites ça, le brumisateur, Nathalie,
non,
l'eau minérale sur le visage. »
Disons que je suis à 50% bien de la routine qui est proposée là, mais par contre, effectivement, comme je vis dans le sud, là, effectivement, je
protection
mets à chaque fois
solaire.
L'anti-solaire.
Tous les jours, vous faites ça ?
Tous les jours.
Et SFP combien ?
Voilà.
50.
Elle a raison.
Et 50, c'est bien, docteur ? Le SFP ?
50, c'est parfait.
D'accord.
50, c'est parfait.
Et les antirides, merci. Vous en pensez quoi ? On les met à quel moment ?
Les antirides, pour moi, je vais pas me faire des amis, mais j'ai jamais trouvé d'antirides qui fonctionnait vraiment et qui diminuait vraiment. Ce qui compte, c'est l'hydratation. Pareil. Pour ce qu'on trouve en parapharmacie, les gélules à base d'acide hyaluronique, etc., ça n'a jamais prouvé son efficacité. Il n'y a pas de biodisponibilité de la gélule qui passerait dans le derme pour nourrir le derme.
Mm-hmm.
Donc je trouve que ça ne sert pas à grand-chose.
Bah,
finalement,
bien.
Ce qu'il faut pour une belle routine beauté, c'est des choses très simples. Peu importe la marque, quand on me demande effectivement « mais quelle marque vous conseillez ?», etc., je n'ai pas à vous conseiller de marque, c'est la marque qui vous convient. Vous essayez une crème, si elle vous plaît sur le plan odeur, sensation, etc., vous la gardez, surtout vous ne changez pas de routine, vous nettoyez votre peau, et de temps en temps, une fois par mois, se faire un soin où on exfolie la peau, où on va si on peut aller chez une esthéticienne ou une kératothérapeute pour se faire un bon nettoyage de peau, là, vous allez entretenir magnifiquement votre peau et vous n'avez pas besoin de vous tartiner des couches sur le visage.
Eh bien, merci beaucoup, Aurène. Hydratation, et pourquoi pas Botox ? Je sais que vous le pensez très fort. Voilà le combo gagnant. On connaît à présent la marche à suivre pour une routine beauté parfaite. Quels sont les bons gestes à faire pour chouchouter notre peau ? Grâce à vous, on sait tout. Philippine Darblay, apparemment cette année la tendance côté galette des rois, ce sont des créations très inattendues qui ne ressemblent pas du tout à des galettes.
Effectivement. Alors déjà, on le rappelle, on adore cette occasion,
cette, ce moment, hein, c'est un grand moment de partage. Et si vous me permettez, excusez-moi, ça reste encore le seul moment qui justifie de passer sous la table. Voilà. C'est vrai que c'est plus trop d'actu tout ça. Bon, alors d'ailleurs, histoire véridique, j'étais dans le bus et il y avait une dame en face de moi et qui disait à son voisin, chouette, on fête enfin l'épiphanie. Et du coup, son voisin lui répond, ah, c'est génial, trop bien. Mais alors, du coup, c'est qui, Fanny? Donc, c'est pas une blague.
On est dans les blagues honnêtes, ce matin.
On est dans les blagues honnêtes. Mais je vous assure, c'est une histoire vraie. Donc, petite piqûre de rappel. L'épiphanie, c'est une fête d'origine chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Voilà, donc, même si certains ne sont pas très contents, hein, petit clin d'œil à Maître Gims, eh ben, je vous souhaite à tous une joyeuse épiphanie. Voilà.
C'était le 6, hein, mais on a le droit, hein, ouais. Quelques jours plus tard, c'est pas grave.
C'est vrai.
Oh, bah, c'est tout le mois de janvier, semaines, je crois. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moment de partage. Et de prime, je crois qu'elle a eu la fève.
J'ai eu la fève. Voilà. Oh my God, déjà.
Parce qu'on a dit qu'alternative à la galette, mais il y a quand même toujours la fève. Hein.
Alors, je vous explique, c'est un peu le problème sur ce plateau, c'est que dès qu'on met de la nourriture en face de tout le monde, ça disparaît avant même qu'on parle. Donc...
Non, moi, je tiens mes bonnes résolutions, je n'ai rien touché pour l'instant. Hein.
Voilà. Oh, vous avez goûté laquelle, Julia?
Celle de Philippe Conticini, c'est-à-dire que je pense que c'est pas loin d'être la meilleure du monde.
Eh bah, ben voilà, exactement. Bah, c'est la première dont j'avais envie de vous parler. En fait, je vais vous faire une petite sélection de galettes inattendues et très tendues. Parce que j'avais envie de changer un peu et qu'il y a des choses vraiment ultra créatives. Donc la première en question, eh ben, c'est effectivement celle de Philippe Conticini et des éclaireuses, qui est vraiment la plus féministe et la plus engagée, parce qu'elle s'appelle même une galette des reines. Ah, voilà, donc elle est très belle, vous l'avez normalement sous les yeux.
Elle est composée de quoi à l'intérieur,
eh ben,
celle-ci?
Elle est composée de crème pâtissière, il y a du miel, de l'huile d'argan, de la pâte de noisette, et elle est recouverte comme ça de filaments de cheveux d'ange, qui sont des filaments de semoule de blé. Ça donne ce côté ultra croustillant. Vous qui adorez l'ASMR, est-ce que vous pouvez nous en faire un petit peu?
C'est quoi là? Vous voulez dire le truc qui fait du bruit avec la bouche?
J'ai vu que c'était une spécialité maintenant dans l'émission.
C'est ça.
Mmh. Ah, puis c'est vrai que ça donne envie. Et puis en plus, c'est très joli.
Non, ça c'est moi, j'avais un gros morceau. Elle a mangé la fève.
Et vous fait écho.
Ben justement, j'ai cassé une dent, je crois.
Si vous avez quoi comme fève? Dites-nous un peu. Parce
alors
que
attendez, je l'ai avalée. Assez... Attendez, ah, non, elle est là. En fait, j'ai quelque chose qui ressemble à une clé.
Il y a différentes choses. Il y a des clés, il y a aussi des petits pendentifs avec des mots doux. Courageuse, fabuleuse, bref.
Vous êtes quoi alors? Courageuse, fabuleuse, il y a écrit quoi?
Moi, il y a marqué courageuse.
Et voilà. Bravo, je vais vous en servir comme petit bijou, je trouvais que c'était une jolie idée.
Alors ensuite, on a quoi d'autre?
On passe à la plus surprenante de toutes, qui est en fait pas une galette, mais un pain des rois.
Oh là là, c'est vrai qu'il a l'air délicieux celui-là.
D'une boulangerie qui s'appelle The French Bastard et du chef qui s'appelle François Debinet.
J'ai l'impression que si je croque dedans, le praliné va m'exploser à la figure.
Et bah exactement.
Oh, vous
et en fait, je pense que c'est exactement
vous
ça.
Vous voulez un couteau? Alors, allez-y.
Pour ceux qui ne peuvent pas voir en direct, c'est magnifique. Ça ressemble à une sorte de tour de seigle traditionnel avec une belle croûte en farine craquelée.
C'est du pain, hein, c'est vrai. Hein, c'est ça, c'est pas une galette. Hein.
Et en fait, c'est une vraie technicité autour de cette galette qui est une sorte de pâte à pain, enfin une pâte à brioche qui renferme en effet une sorte de gâteau frangipané ultra moelleux et truffé de praliné. Mais un peu spécial ce praliné puisqu'il est au pain grillé.
Oh là là!
Voilà. Et du coup, je vais laisser Julien Bourmade nous parler un petit peu de ce praliné au pain grillé.
On récupère des bâtardes et des traditions de la veille qu'on met à sécher au four et on utilise un temps pour temps amande brute pain quand on fait notre praliné et on verse le caramel du praliné sur le pain et les amandes. Après, on vient le mixer et on le met en poche et on utilise ce praliné au pain pour garnir la brioche.
Donc voilà, vous imaginez bien, ça croque sous la dent, il y a des tonnes d'amandes torréfiées, bref, c'est à tomber par terre. Oh là là. Et c'est vrai que ça a pris des mois et des mois de préparation. Alors, d'ailleurs, pour François Debinet, qui est l'autre personne qui a contribué à cette magnifique création, la galette fait partie de ces produits très traditionnels qui connaissent un vrai renouveau depuis quelques années.
La galette en fait partie, mais il y a aussi le flan, il y a le Paris-Brest. Finalement, on est sorti un peu de cette séquence où on était beaucoup sur des produits mousse, croustillants, biscuits, moelleux, crémeux qu'on a vu pendant un petit moment, et pour se concentrer depuis 5 ans sur un retour aux produits traditionnels. Mais c'est vraiment une très bonne nouvelle et on aime se challenger sur ce genre de produits justement qui parle à tout le monde, je crois, beaucoup plus que des produits voilà, mousse entremets.
Alors on va passer à la suivante qui est la plus esthétique de toutes, qui est celle qui est en fait une babka des rois de babka zana. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la babka, c'est cette fameuse brioche tressée d'Europe de l'Est. Et ben là c'est un magnifique leur
on
babka
vous mettra
des rois.
Toutes les images sur notre compte Instagram, le compte Instagram de Bienfait pour vous évidemment pour que vous puissiez profiter de tout ça. Elle est magnifique cette babka des
voilà,
rois.
Voilà, elle est tressée, torsadée.
Voilà. Et donc apparemment la prochaine elle est carrément une œuvre d'art.
Oui,
allez-y, on vous
c'est
écoute.
C'est celle du restaurant La Seine de Stéphanie Lequelec. Alors là, vous l'avez aussi sous les yeux. Je vais vous donner ces petits bouts. Et alors, elle a un aspect comme ça, granuleux, irrégulier, quasi rustique, magnifique. Et en fait, fait de son de blé caramélisé. Oh là, elle est au blé ancien. Et elle le renferme, en fait, entre autres, une crème pâtissière, là aussi infusée au pain grillé, au lait infusé au pain grillé.
Ah bah décidément, c'est tendance. Hein,
c'est la coqueluche.
Mais
c'est
voilà,
la coqueluche.
On n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Philippine Darblé, pour cette présentation, ces nouveautés qui vont ravir tous ceux qui n'en peuvent plus de la galette des rois traditionnelle ou qui veulent peut-être un peu de fantaisie, de changement cette année. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Cette émission est terminée. On sera évidemment de retour demain dès 11h. Et Julia, demain, qu'avons-nous au programme ?
Eh bien, Mélanie, on entend souvent parler des bienfaits de la méditation pour nous libérer des pensées négatives. Eh bien, saviez-vous qu'elle est aussi excellente pour notre cerveau ? Et c'est même prouvé scientifiquement. Ce sera notre sujet du jour dans Bienfait pour vous.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission. À suivre, c'est Europe Midi, Romain avec Romain Desarbres.